France Info.
France Info.
À la une d'un monde d'info, aujourd'hui le Japon qui renoue avec son passé militaire en autorisant l'armée à passer à l'offensive. Le coton équitable, nouvel Eldorado économique pour le Sénégal. Et puis une étape également en Iran où de jeunes scientifiques défient les étudiants américains. Le Japon peut retrouver une armée offensive. Le gouvernement a adopté hier une résolution qui lève le garde-fou constitutionnel qui empêchait le Japon de mener des opérations militaires à l'étranger. Une interdiction qui était en vigueur depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à présent, les soldats japonais étaient mobilisés uniquement pour des missions défensives. À Tokyo, Frédéric Charles.
Eh bien, la réinterprétation de la constitution pacifiste permet aujourd'hui à l'armée japonaise de porter secours à un allié en guerre et d'user de la force si elle est attaquée dans des opérations de maintien de la paix de l'ONU. La menace potentielle représentée par la Chine et la Corée du Nord pousse le Japon à procéder à un changement profond de sa posture militaire, à se normaliser sous la houlette des États-Unis. Le protecteur américain veut aboutir à un partenariat avec le Japon pour assurer la sécurité de la région. Tokyo pourra se rapprocher militairement du Vietnam et des Philippines, également au cœur de tensions avec Pékin. Le Japon a levé en outre l'interdiction qu'il s'imposait depuis 1945 de vendre des armes à l'étranger. Tokyo, Frédéric Charles, RFI. Pour France Info.
Le Japon qui annonce aujourd'hui la levée d'une partie des sanctions contre la Corée du Nord, par exemple sur les voyages des Nord-Coréens dans l'archipel ou encore les navires enregistrés en Corée du Nord qui ne seraient plus interdits d'entrer dans les ports japonais en cas de force majeure. Alors pourquoi cette levée de sanctions ? Eh bien en échange de la réouverture d'un vieux dossier, celui de l'enlèvement de Japonais pendant la guerre froide. Une liste de noms a été transmise à Tokyo et une commission d'enquête spéciale a été créée. Une quinzaine de Japonais avaient été enlevés pendant la guerre froide. 5 seulement étaient rentrés au pays. La science pourrait rapprocher l'Iran et les États-Unis. C'est le pari que font des étudiants iraniens. En tout cas, ils viennent de fabriquer une voiture solaire. Leur objectif, participer à une course internationale qui va se dérouler aux États-Unis d'ici quelques semaines. Ces étudiants veulent ainsi engager un vrai dialogue scientifique avec leurs homologues américains. Savioche Ghazi à Téhéran.
La voiture solaire, appelée Ravine 2, construite par les étudiants, est longue de 4,5 m et a déjà roulé à plus de 110 km/h sur les autoroutes de la région. Après bien des déboires, à cause des sanctions internationales contre l'Iran, les étudiants iraniens ont réussi à envoyer leur voiture à Dubaï, qui doit être acheminée aux États-Unis, comme l'explique Mohamed Saad Atmand, un étudiant de 25 ans qui est le chef mécanicien du groupe.
La compétition aux États-Unis est un véritable marathon. Il s'agit de parcourir en 8 jours 2700 km, de traverser 7 États américains, d'Austin au sud à Minneapolis dans le nord. Et on peut circuler sur les autoroutes de 9h du matin à 6h du soir.
Pour ces étudiants iraniens, le projet vise à développer l'énergie solaire dans un pays qui compte plus de 300 jours de soleil par an. Mais il s'agit également de montrer que malgré les sanctions économiques internationales, l'Iran se développe. Des universités célèbres comme celle de MIT aux États-Unis participent à cette compétition.
En dépit des sanctions internationales et des restrictions technologiques et industrielles qui frappent notre pays, nous voulons, avec notre présence, montrer que nous sommes des étudiants qui pouvons concurrencer les grandes équipes internationales et même obtenir une meilleure place qu'elles.
L'envoi de cette voiture solaire aux États-Unis est peut-être le signe qu'après 35 ans de rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, les choses commencent réellement à changer. Les étudiants iraniens veulent engager un dialogue scientifique avec leurs collègues américains. Terence Yevashkazi, France Info.
Des violences entre bouddhistes et musulmans en Birmanie provoquent la mort de 2 personnes cet après-midi dans le secteur de Mandalay, la deuxième ville du pays, 7 millions d'habitants. Un couvre-feu a dû être imposé dans cette ville où la question religieuse reste éminemment sensible. La Birmanie est majoritairement bouddhiste, mais depuis 2012, des violences communautaires éclatent régulièrement. Des dizaines de policiers patrouillent dans le centre-ville de Mandalay. Désormais, la police qui a dû utiliser des balles en caoutchouc pour disperser une foule armée de pierres, de bâtons et de couteaux. En Égypte, ce jeudi est un jour de colère pour les islamistes un an tout juste après la destitution de Mohamed Morsi. Les frères musulmans comptent bien organiser plusieurs manifestations d'ici ce soir dans les grandes villes du pays, malgré l'interdiction des autorités et la politique de répression menée à leur égard. Des échauffourées ont déjà éclaté dans un quartier du Caire aujourd'hui. Plusieurs bombes ont également explosé dans différentes localités. 2 personnes ont été tuées. Le coton équitable pourrait doper l'économie du Sénégal. Jusqu'à présent, les principales ressources économiques de ce pays d'Afrique de l'Ouest proviennent de la pêche et du tourisme. La culture d'arachide s'est également développée ces dernières années. Mais depuis 2005, le coton a fait son apparition dans le pays. Paysans et industriels s'organisent pour créer une filière de coton de qualité. Aujourd'hui, il existe 30 000 exploitations familiales et l'an dernier, plus de 32 000 tonnes de coton ont été récoltées. Binta Diagre, reportage.
Demba Baldé est agriculteur. Dans ses parcelles, il sème du sorgho, du petit mil et du maïs. À côté de ses cultures vivrières, ce paysan s'est lancé dans la culture du coton, car c'est bien plus rentable.
Le coton a vraiment changé ma vie quotidienne. Avant, j'habitais dans les cases faites de paille. Depuis, j'ai pu me construire une maison en béton avec un toit en zinc. Avant, je roulais à vélo. Maintenant, j'ai une moto. Vu toutes ces améliorations, je ne suis pas prêt de quitter la culture du coton.
En 2005, l'assaut Defitex, unique industriel à traiter le coton dans le pays, se lance dans la production d'un coton équitable. La société discute du prix des graines avec les producteurs un an avant qu'elles ne soient récoltées. Les producteurs sont d'ailleurs rémunérés dès la première semaine de commercialisation du coton et bénéficient de cours d'alphabétisation dans leur langue, le poulard. Mamadou Samuel Ba, un producteur, est satisfait de cet accompagnement.
Avant, je calculais en français, mais cela ne m'apportait pas de rentabilité, car au niveau de la culture cotonnière, on calcule souvent en poulard. Cela me causait beaucoup de problèmes.
Qu'est-ce qui vous a convaincu de rester dans le coton ?
Là où on a cultivé du coton, tu mets du maïs, tu as un bon rendement. Tu reçois aussi de l'herbicide, de l'engrais et de l'urée. Ainsi, on se procure de la nourriture familiale.
De son côté, la Sodefitex multiplie les efforts pour produire un coton de qualité pour ensuite le vendre sur les marchés internationaux. Tout se joue au moment du classement. Cette opération permet d'attribuer une valeur commerciale au coton. À l'usine, c'est au toucher que les employés trient la matière. Idika est le responsable du contrôle qualité de l'usine de Tambacounda.
On examine d'abord la longueur de la fibre avec la main. Je regarde le coton, il est blanc, il est propre, je le mets en cigale S. Ce coton, il est gris, je regarde sa longueur, je vois sa charge, je connais son type de vente en fonction des boîtes de standard qui sont là. Quand on fait le bilan, toutes les balles qui ont la même couleur sont ensemble et ça retourne tout de suite à l'usine.
Seule difficulté, le milieu rural continue de se détourner de la culture au profit d'activités plus attrayantes comme leur paillage traditionnel présent dans la zone du sud. Bachir Diop, le directeur général de la Sodefitex.
C'est la zone où nous développons le coton équitable comme alternative pour résister à leur paillage. Le coton équitable permet d'offrir à l'agriculteur 30 francs CFA du kilo en plus, ce qui lui permet de mieux se rémunérer. Mais ce qui est menacé, ce n'est pas le coton, c'est l'agriculture. Si on y prend garde, bientôt il n'y aura plus d'agriculture. Une étude que nous avons menée a montré qu'entre 2006 et 2012, 35% des jeunes ont quitté l'agriculture pour aller se faire manœuvre dans des maisons d'orpaillage, pour aller faire de l'orpaillage traditionnel.
Autre enjeu pour le Sénégal, produire plus comme le Burkina Faso ou encore la Côte d'Ivoire. Si toutes les conditions climatiques et matérielles sont réunies, on estime que le Sénégal peut atteindre au maximum une production de 65 000 tonnes de coton chaque année. De retour de Velingara, Binta Diagne pour France Info.
Et si vous alliez manger chez Gérard ? Voilà le nouveau nom du futur restaurant de Gérard Depardieu. Il compte l'ouvrir à Moscou, en Russie, pour le mois d'octobre prochain. La cuisine s'annonce simple pour des plats français et russes. L'acteur a obtenu la nationalité russe depuis un an et demi. Maintenant, il possède déjà 3 restaurants à Paris.